C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up. Please shut up. Stop. Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Et bien voilà, c'est parti pour une nouvelle édition de Série Folie. C'est déjà l'épisode 9 de la saison 2. Et j'accueille Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Tu vas bien ?
Je vais très bien.
Bon, la petite revue de la semaine déjà, les points positifs, négatifs.
Alors, oui, le point positif pour commencer, je vais pour une fois ne pas vous parler d'une série. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et qui évidemment parle de séries. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vous invite à aller découvrir. Ça s'appelle Les Showrunners. Et ils font des petites vidéos assez comiques sur l'univers des séries. Alors parfois, ils expliquent simplement un pilote d'une série en particulier. Parfois, ils font des explications plus sur un système ou un autre. Par exemple, c'est quoi les networks, c'est quoi un pilote, ce genre de choses. Donc voilà, allez découvrir la chaîne YouTube, Les Showrunners. C'est vraiment drôle et ça prend pas énormément de temps.
Bien, voilà. Bonne petite découverte. Ton point négatif de la semaine ?
Mon point négatif, il y en a plusieurs.
Aïe.
Il y a plusieurs.
Mais tu n'as droit qu'à un.
Ah non,
non.
Désolé.
Bon, okay.
Mais je vais globaliser les trois séries dont je vais parler en une seule. Il y a trois séries que je suis déjà depuis un petit temps et qui me font très peur pour cette saison-ci. Il s'agit de The Walking Dead. On en a parlé un peu la semaine passée. La direction vers laquelle ils vont, ça me fait peur. Sons of Anarchy.
Mais comment ? Mais tu veux choquer les gens tout de suite ?
Ben écoute, je suis désolée, mais... Voilà.
On reviendra sur le cast of Anarchy, mais ça fait un petit temps que moi, ça va.
Oui, oui, d'accord, mais là, il... Bon, voilà.
Il faut bien terminer le truc. Hein, dans
et le dernier,
cet épisode, c'est fini, donc voilà.
Le dernier, j'ai carrément abandonné. Étonnamment, parce qu'apparemment, ça a beaucoup de succès. C'est American Horror Story.
Mais là, tu devrais peut-être t'y replonger.
Tu crois ?
Ouais, allez, un petit épisode pour se faire mal, pour être bien sûr.
Oh, je me suis tellement ennuyée lors du premier que je me suis dit, ils vont pas me refaire le coup de la saison 3. Et j'ai arrêté, quoi.
Ah, moi, je sens qu'on va s'infliger ça.
On
va trouver un moment où on n'a rien à faire. Bon, déjà, c'est chaud. Et puis, on se le regarde et on se fait plaisir.
Non, je souffre.
Avec une bonne bière. Allez.
Allez, si tu m'offres la bière, peut-être qu'il y a moyen.
S'il y a moyen d'agrémenter un peu ce temps de pause. Bah, ok, bah, moi, je te propose qu'on se force à au moins en regarder un avant la semaine prochaine. voilà, pari tenu. La bière est déjà dans le frigo, donc moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Bien, alors la suite,
c'est le pilote.
Le pilote que tu as découvert cette semaine.
Oui, alors j'avais comme projet de mettre ensemble les pilotes de comédies romantiques. On éliminait Manhattan Love Story qui avait été annulé. Et je voulais vous parler de Etouzi, de Selfie et de Marimi.
Oui.
Bon, Etouzi, déjà, ça vaut pas la peine parce que ça a été annulé également par NBC, donc on n'en parle plus.
Mm-hmm.
Donc je vous propose de parler de Marimi et Selfie, qui sont les deux qui restent.
Ouais.
Selfie, c'est sur ABC et Marimi, c'est sur NBC. Alors, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, dans Marry Me, on a un couple qui est ensemble depuis déjà quelques années Et la femme du couple a toujours dit qu'ils ne vivraient pas ensemble tant qu'ils n'étaient pas mariés. Mais elle commence à perdre patience lors du pilote. Et donc, bon, de quiproquo en quiproquo, ils vont quand même finir par avoir une voire plusieurs demandes en mariage, parce que c'est un petit peu foireux, c'est un petit peu tout le côté comique du pilote. Jusqu'à présent, j'en ai vu deux épisodes. Le deuxième épisode, c'est assez classique. L'homme emménage chez elle et bah, évidemment, elle ne se retrouve plus parmi les affaires de son compagnon et elle essaie un peu de fuir cela. J'ai pas trouvé ça extrêmement original et j'ai trouvé que la fille était très 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 énervante. Et donc je suis un petit peu embêtée parce que d'un côté, alors on retrouve dans les rôles principaux Ken Marino et Casey Wilson. Ken Marino, je le trouve totalement adorable, j'adore cet acteur et donc j'adore voir cet acteur notamment dans ce rôle-là. Mais celle qui joue sa compagne, j'aime pas du tout.
Et donc ça gâche un peu ton expérience avec cette série.
Et voilà.
Ok, bon, moi je suis du même content, ils sont passés à autre chose, ils n'en sont plus aux demandes en mariage, c'est déjà pas mal, parce que le premier épisode, ok, c'est marrant, mais bah, quand on a 3 ou 4 là, d'affilée foireuse en plus, ouais, ok, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, peut-être pas autant en si peu de minutes, mais bon, voilà, c'était le seul côté original,
ouais.
Et pour le reste, bah oui, ça m'a l'air assez classique.
Oui, c'est de toute façon classique. Elle t'a pas énervé, toi, la fille
J'ai pas vu le deuxième épisode, en tout cas, je m'en souviens pas, donc non.
Elle a l'air super stressée et incapable de communiquer normalement, quoi, ce qui est un petit peu embêtant. Ouais. Alors, évidemment, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de comique, mais en même temps, bon, pourquoi s'infliger ça, quoi.
Ok,
voilà.
Okay. Bon, on vit pas avec non plus, hein, bon.
Oui, c'est pas faux.
Et pour terminer.
Et de l'autre côté, on a Selfie. Selfie, j'en avais déjà un petit peu parlé. On retrouve dans les rôles principaux Karen Gillan et John Cho. Et c'est une sorte de My Fair Lady revisité au temps des nouvelles technologies. Donc la fille est absolument addict à tout ce qui est réseaux sociaux. Et le mec, lui, en est totalement. Il est totalement allergique à tout ça et il va essayer de lui apprendre à avoir des relations un petit peu authentiques avec les gens, sachant que probablement avec le temps, bah, elle va finir par lui apprendre certaines choses aussi. Et donc les deux acteurs fonctionnent assez bien ensemble et je suis beaucoup plus emballée par cet épisode, par cette série-là que par l'autre qui me paraît avoir plus de potentiel sur la longue durée.
C'est plus frais aussi. C'est,
oui.
Voilà.
Oui.
Ils sont plus jeunes aussi, peut-être.
Plus jeunes, j'en sais rien. Hein,
mais... Non. Ouais, moi, il me semble. En tout cas, moi, ça me paraît plus frais, plus vivant.
Voilà. Bon. Donc, je le conseille, en tout cas, Selfie, si vous avez l'occasion. C'est plutôt une bonne surprise.
Très bien. Une petite pause musicale, on a assez parlé.
Alors,
bah oui,
ça va vous surprendre, mais c'est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Pourquoi ? Parce que c'est un petit clin d'œil qu'on a entendu dans The Good Wife dernièrement. Et donc, voilà, c'était l'occasion.
Took your time with the call, I took no time with the fall. You can-
Nous partons à la découverte d'une série mise à l'honneur, une série sympathique, Parks and Recreation, avec des acteurs, ma foi, bien typés. On adore ça, nous, hein, oui.
Oui, tout à fait.
Tu vas nous en parler, comme à ton habitude.
Voilà, alors, Parks and Recreation, c'est une série NBC qui est diffusée depuis 2009. On a connu jusqu'à présent 6 saisons. Elle a été créée par Greg Daniels et Michael Schur.
Oui.
Voilà, et on y retrouve dans le rôle principal Amy Poehler et autour d'elle Rashida Jones, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Aziz Ansari, Rob Lowe, Nick Offerman et Adam Scott pour les principaux. Voilà, alors ça nous parle de quoi ? C'est, au départ, le projet, c'était un petit peu de faire un spin-off de The Office, puis finalement ça a été abandonné, mais le principe est quand même très proche de The Office, c'est-à-dire que on a une caméra qui suit...
Ouais, une sorte de mode reportage comme ça, assez
voilà.
Proche des personnages, mais qui filme toutes leurs bêtises, quoi, en gros.
Qui filme leur travail, donc c'est une comédie sur le lieu de travail, où on va avoir certains moments où les acteurs parlent en face caméra, et puis d'autres moments où on les suit tout simplement dans leur travail quotidien. Je vous propose d'écouter un extrait qui est le tout début du pilote où on entend bien que justement l'actrice principale parle face caméra et explique un petit peu qui elle est et c'est quoi ses ambitions. Et puis on revient juste après pour la critique.
Miss No! There's a drunk stuck in the slide!
Sir, this is a children's slide. You're not allowed to sleep in here.
You know, when I first tell people that I work in the government, they say, oh, the government stinks, the lines are too long, or the DMV. But now things have changed. People need our help. And it feels good to be needed.
Could you put your arms to your side?
Wait.
And that might help you slide down a little easier?
We don't...
Do you want to come this way? Okay, we're going to need you to get out.
Please go away.
Get out of the slide. Okay?
You're...
Here we go.
Please go away.
Okay, wake up. Here we go, out of the slide.
You know, government isn't just a boys' club anymore. Women are... everywhere. It's a great time to be a woman in politics. Hillary Clinton, Sarah Palin, me, Nancy Pelosi.
We did it!
You know, I like to tell people, you know, get on board and buckle up because my ride's gonna be a big one. And if you get motion sickness, you know, put your head between your knees because Leslie Knope's stopping for no one.
Voilà, donc pour la critique, on va commencer, et c'est bien normal, par les personnages, parce qu'on a vraiment toute une brochette de personnages à la fois très sympathiques et plutôt attachants, même si, surtout au début de la série, il y avait une tentative d'avoir des personnages réalistes, mais leur côté délirant a vite
pris le pas
oui, quand même.
Oui,
hein, et donc, mais... ils ont leur petit côté énervant, mais en même temps, c'est vraiment une bande de personnages qu'on aimerait bien avoir comme amis, quoi. Et je dois dire que par rapport à énormément d'autres séries, c'est des types de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement. Des personnes d'un âge moyen, de classe indéfinissable.
Oui, et j'ai l'impression qu'ils sont tous vraiment sympathiques, parce que si on compare un peu à The Office, on s'attachait pas à tous, tu vois. Tandis que ici, vraiment, ça ressemble un peu à une grande famille à laquelle on a vraiment envie de s'accrocher.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que The Office, il y en avait certains qui restaient beaucoup plus en retrait et qui, ou bien même qui étaient un petit peu antipathiques. Là, ils ont tous leur côté délirant et attachant qui donne vraiment envie de les rencontrer en vrai. Même si, c'est pas possible.
Ça n'arrivera pas.
Voilà.
Et quoi, le petit patelin, là, il existe vraiment?
Le petit patelin, il existe vraiment, oui. Maintenant, jusqu'à quel point est-ce que ça ressemble à ce qu'il montre dans la série, ça, je n'en ai aucune idée. Oui, Pony, c'est à la frontière entre le Colorado et je sais plus quoi.
Ok.
Si je connaissais mieux ma géographie, je pourrais peut-être le dire. Mais
pourtant, tu viens de là-bas.
Mais oui, mais non.
Voilà.
Donc voilà. Alors, deuxième point, l'univers. Alors, c'est vraiment un univers totalement délirant et qui va se développer de plus en plus au fur et à mesure des saisons. Il y a une vraie âme qui se construit autour de cette ville et autour surtout du personnage principal de Leslie Knope, donc joué par Amy Poehler, qui a le don pour donner vraiment un caractère attachant et sympathique à tout ce qu'elle touche quelque part. Et donc, mais ça va être notamment les parcs, mais aussi l'espèce de poney là, petit Sébastien.
Okay.
Oui, je suis désolée, mais il y a un poney et ils sont extrêmement attachés à ce poney. J'ai jamais très bien compris pourquoi, mais bon, voilà. Il y a un univers qui se construit autour de cette ville, quoi.
C'est parce que tu n'as jamais été une charmante petite fille que tu n'aimes pas les poneys.
Peut-être. J'étais une très méchante petite fille. Il y a aussi la fresque qu'il y a dans l'hôtel de ville, puisque donc j'ai oublié de le préciser, mais c'est dans un service public qui s'occupe des parcs et des...
Parcs et loisirs.
Voilà. Et donc, ils travaillent dans l'hôtel de ville et on a une grande fresque comme ça à l'entrée de cet hôtel de ville qui représente le massacre des Indiens, je crois, au moment où les colons sont venus s'installer sur le truc. Enfin, il y a vraiment tout plein de choses comme ça qui sont assez cocasses et qui donnent vraiment une sorte de caractère étonnant à ce patelin.
Complètement décalé.
Voilà, complètement décalé, exactement. L'originalité, on l'a dit, c'est une déclinaison de The Office, mais au sein d'un service public. Donc, on va avoir les mêmes modes de narration que dans The Office. Mais par contre, ce sera... J'ai l'impression, au niveau du travail qui est réalisé, un petit peu plus intéressant quand même, vu que on voit certaines choses se développer au fur et à mesure des saisons. Notamment, il y a un projet dès le départ qui va être pour Leslie d'arriver à créer un parc, et au fur et à mesure des saisons, ce projet se met petit à petit en place. Tandis que dans The Office, ils vendent du papier, ils vendent du papier, ils vendent du papier, quoi. En gros,
et on voit plus ou moins même pas à qui dans ce cas-là.
Et on voit pas souvent à qui. Donc, c'est un petit peu plus développé à ce niveau-là.
Mmh.
Alors, les intrigues. On a d'un côté toutes les tracasseries administratives. Ça peut paraître extrêmement rébarbatif, a priori, hein, et je crois que c'est justement ça qui était pour ça qu'ils ont choisi ce cadre-là, parce que ça paraît a priori, on n'a pas du tout envie de passer notre temps à regarder ça, mais en même temps ils arrivent à en faire des histoires totalement délirantes et drôles à chaque épisode, et donc c'est vraiment ce décalage qui va permettre de nous rendre la série sympathique. Enfin, le propos, mais je crois vraiment que on peut reconnaître dans cette série la défense d'un primat à l'individu. Je m'explique.
Oui, parce que là, c'est un peu général. Oui.
On est dans un service public et donc on pourrait se dire que c'est le collectif quelque part et même les règles, les lois, tout ce qui fait l'institutionnalisation de la société qui devrait être le plus important. Mais on voit que... En dehors de Leslie Knope, qui, elle, est vraiment hyper motivée et qui veut tout faire, les autres sont pas forcément tous super motivés. C'est même quasiment la seule à l'être à fond. Il y a son chef, Ron Swanson, qui, lui, est même carrément anti-service public. Il voudrait qu'il n'y en ait plus d'État aux États-Unis. Et donc, il fait tout pour essayer un petit peu de saboter le principe même de son travail. Et on voit que, en prenant sur ses seules épaules des projets comme ça au service de la communauté, un seul individu arrive à réaliser des projets par lui-même, quoi. Et que, s'il n'y a pas ça, le service public, c'est rien. Donc, en gros, le service public, ce sont les individus qui les composent. Et voilà. Donc.
Tout en s'en moquant un petit peu, ils le défendent, en gros.
Tout en s'en moquant totalement, ils réussissent malgré tout à lui donner ses lettres de noblesse en disant au sein de ce service public, il y a peut-être une personne qui, elle, va vraiment être tellement motivée qu'à elle seule, elle vaut les 10 autres qui ne foutent rien autour d'elle, quoi, quelque part.
Bien, c'est à espérer, parce que voilà, c'est un long débat, mais...
Ok, on va s'écouter de la musique.
Oui, on ne va pas rentrer sur une discussion politique. Mais quoi, voilà. J'ai aucune plainte, dans la famille, tu le sais très bien, j'ai des gens qui y travaillent et qui sont très bons, qui tiennent le service à eux tout seuls, donc voilà.
Tiens, tu as peur qu'ils t'écoutent, toi.
Ouais.
Bon, bref.
Musique, on arrête là. Dis-moi.
Alors, on a Melissa Etheridge qui va chanter Come to My Window qu'on a entendu dans Park and Recreation.
Évidemment.
Come to my window. Crawl inside. Wait by the light of the moon. Come to my window. I'll be home soon. Just to listen to your breath, and I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache, and you don't know how much I'd give or how much I can take just to reach you, just to reach you. Afford to sleep, giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood. I am forsaking all the rest just to reach you, just to reach you.
Voici déjà le débat de la semaine, la petite discussion entre Aurore et moi. On va parler de fans de séries.
Oui.
Quelle est cette notion ?
Mais on va se questionner sur est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, être fan de série. Parce
oui.
que, en fait, bon, il y a une petite tentation pour le moment, j'ai l'impression, du côté des fans de série, en tout cas des vieux fans de série, d'être un petit peu dérangé par le fait que leur objet d'affection devienne
un peu trop public,
un peu trop populaire.
Voilà.
Et donc il y a de plus en plus de gens qui se disent fans de séries et du coup ils ont l'impression un peu qu'on leur vole ce qui faisait leur identité, j'ai l'impression.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que je suis un petit peu embêtée par ça, probablement en partie parce que j'ai pas l'impression d'être une vieille fan de série, même si je suis pas jeune.
Tu te considères comme une fan de série?
Je me considère pleinement comme une fan de série, mais surtout avec les heures que j'y consacre chaque semaine.
Toi, t'es plus une fan, t'es une professionnelle du milieu.
Si j'étais payée, pourquoi pas?
C'est ça. Bon, okay. Mais bon,
non,
oui, tu en as fait ton corps de métier quand même.
En plus ou moins, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser de manière extrêmement systématique aux séries depuis une petite dizaine d'années, on va dire.
Mm-hmm.
Y a certains fans de séries qui, quand ils étaient enfants déjà, ou quand ils étaient adolescents, regardaient énormément de séries étaient déjà totalement fans.
Oui, bon, moi aussi, mais moi à l'époque, quand je regardais du Magnum, de l'Agence Tourisque, ce genre de choses comme gosse ou ado, je peux pas dire que j'étais un vrai fan de séries. Je regardais ça comme tout divertissement. On avait quasiment que ça à se mettre sous la dent aussi. Il n'y avait pas l'internet comme on le connaît aujourd'hui. Donc moi, je ne m'attribue pas cette étiquette-là, en tout cas à cette époque-là. Maintenant, oui, parce que ça est devenu aussi une source de discussion et d'activité pour moi, mais moins que toi, hein, beaucoup moins. Mais comment, moi, je n'imagine pas, ça me paraît difficile d'imaginer qu'à 10 ans, 12 ans, 13 ans, ado, tu peux déjà te labelliser fan de série. Tu regardes ça comme un divertissement.
Il y en a qui très jeunes ont été fascinés par certaines expériences.
Certaines. Et alors moi là je dirais on est fan d'une série. Et là je pourrais le comprendre mieux, la notion.
Souvent ça commence par là, oui. On est fan d'une série. Alors généralement, quelles sont les séries qui reviennent très souvent? C'est X-Files, c'est Buffy contre les vampires, c'est ce genre de série qui passait il y a, 15, 20 ans maintenant.
Ouais. Je confirme.
Oui. Donc, ça, c'est quelque part, c'est la génération des fans de séries qui commencent à se dire maintenant que les autres viennent empiéter sur leur plate-bande.
Ouais, ce sont des vieux nostalgiques qui aimeraient bien garder leur petite primeur pour eux.
Non, c'est pas ça. Non, je peux comprendre tout à fait, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'avais pas droit à la télé quand j'étais petite.
Mais voilà.
Donc je pouvais pas.
Et puis une nouvelle fois, je suis pas sûr que tu aurais eu accès plus tôt, que tu te serais dit waouh. Il y a aussi un âge pour ça. On commence quand on veut, en gros.
Mais surtout là où je voulais en venir, c'est que cette notion de fan de série, pour moi, a pas énormément de sens, en tout cas de sens arrêté, parce que quelque part, il y a certains fans de série qui ont vu, par exemple, tous les X-Files, mais qui n'ont absolument pas vu une autre série qu'un autre fan de série, lui, a vu de fond en comble. Mm-hmm. Et donc, comme il est totalement physiquement impossible d'avoir vu toutes les séries
attention, il y en a peut-être qui nous écoutent. qui ont des preuves d'avoir tout écouté et tout regardé.
Qui auraient tout vu, mais non, alors ils sont multicentenaires, je ne sais pas.
Oui, allez, je peux comprendre ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire.
Mais et... où ça s'arrête alors? C'est quoi le label de qualité d'un fan de série?
Mais moi, je ne prétends pas être capable de donner un label de qualité, okay. Tu vois, c'est voilà. Un petit peu ça le truc. Mais enfin, là... Surtout, il faut rappeler juste que ben, chacun a découvert un petit peu les séries de manière différente. On l'a dit, il y en a qui ont découvert à travers certaines séries de science-fiction, il y en a d'autres qui ont découvert avec Desperate Housewives, par exemple. Ça existe aussi. Et il n'y a pas énormément de liens, de rapports entre Desperate Housewives et X-Files. En tout cas, je ne crois pas. Donc... Voilà, bon, est-ce que vraiment se dire fan de série et vouloir défendre son petit précaré de fan de série, ça a un sens, alors qu'il est impossible d'avoir tout vu et que chaque expérience de fan est si différente et individuelle par rapport à celle de son voisin, quoi. Ça me paraît un petit peu limité comme vision. Je peux comprendre parce que quelque part, tu crées ton identité autour de ça, tu y passes énormément de temps et donc tu as envie de défendre ton truc. Ça me paraît normal, mais en même temps, bon, si on y réfléchit un petit peu, il n'y a pas vraiment l'essence du fan de série, quoi. Ça n'existe pas.
Non.
Voilà.
Non. Et toi, tu identifies à un moment donné ton basculement du statut de bête téléspectateur à celui de fan de série?
Alors, moi, c'est un petit peu particulier.
Toi, on t'a donné une télé un jour dans ta vie. Et voilà.
Non, non, c'est pas tout à fait ça, parce que j'avais quand même la RTBF.
Hein, moi, je vais y revenir après.
J'avais le droit à regarder Beverly Hills quand j'étais ado.
Wow.
le samedi après-midi.
Hein. Oui, mais est-ce que déjà, en ce temps-là, tu pouvais dire que tu étais fan de série?
À ce moment-là, j'étais absolument pas fan de série. Non, je regardais ça et quand je le manquais, ça me faisait ni chaud ni froid. Mmh. Mais il y a certaines séries qui ont quand même marqué ma démarche, même si je n'étais pas encore fan, mais en tout cas, je n'avais pas envie de manquer un seul épisode. Par exemple, je me souviens quand j'ai découvert Seinfeld, quand j'ai découvert I Incident.
J'allais en parler. Moi, les deux séries... Bon, je me rappelle vouloir vraiment suivre le prochain épisode. Il y en a deux. Il y a Urgence. Et alors, I Incident, là, parce que c'était une claque. Pour l'époque, c'était vraiment une claque. C'était une série policière assez bien amenée, d'une vision assez originale. Et chance ou malchance, à l'époque, j'étais en côte et on n'avait que la RTBF qui diffusait ça en VO sur la 2. Et on captait ça très bien avec une bête antenne sur une vieille télé. Et on n'avait que ça. Mais c'était, par chance, une des meilleures séries du moment.
Ouais.
Et c'est là que j'identifie. J'ai vraiment adoré le format série télé et j'avais vraiment envie de savoir la suite et de redécouvrir un épisode sur ces deux noms-là, certainement.
Ouais, ouais, ouais.
Il y en avait d'autres avant, mais c'était moins marqué parce que déjà il n'y avait pas
le côté très feuilletonnant.
Feuilletonnant, ouais. Donc il n'y avait pas vraiment de suite. Et donc c'était moins facile de s'accrocher à des séries avant celle-là, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Et là, ça a commencé. Là, il y a eu vraiment un amour de la série télé et un respect de la qualité de certaines d'entre elles, en tout cas. Voilà.
Mais en tout cas, oui, je crois qu'on peut dire malgré tout que il faut aussi se rappeler du contexte. À part vraiment si on avait un accès, je ne sais pas comment, à certaines séries qui étaient tout simplement pas diffusées chez nous.
La première source, c'était le satellite français. Il y a eu des gens qui ont été équipés de la captation satellitaire française et Canal+ notamment aussi.
Ouais.
Mais à part ça, oui, on n'était pas dans le même format qu'actuellement. L'internet était très peu développé et certainement pas avec des séries disponibles comme ça un jour ou deux en Europe, quoi.
Et même comme ça, à mon avis, ça devait être très difficile de devenir fan de série quand tu vois avec quelle désinvolture, premièrement, les doublages pouvaient être faits.
Les doublages et la censure.
Et la diffusion, la censure, oui, aussi.
On
ne
se rend pas compte, mais la plupart des séries qu'on a connues tout jeune étaient censurées. On ne voyait pas le même contenu qu'à l'origine au Japon pour les mangas, notamment, et aux États-Unis pour certaines séries où on te change complètement l'histoire parce qu'on ne veut pas parler de drogue, on ne veut pas parler de ceci ou cela.
Ouais.
Et ça, on ne s'en rend même pas compte, et on ne s'en rendra certainement pas compte si on ne fait pas une étude autour, parce que c'est tellement vaste que...
Ouais.
Notamment TF1 et France 2, les deux chaînes principales de diffusion de séries télé en Belgique, se sont amusés à de temps en temps saucissonner le machin, quoi.
Oui, tout à fait. J'aimerais juste rappeler que, justement, parce qu'on a découvert certaines séries grâce à la RTBF, peut-être qu'on peut dire qu'il y a quand même eu un effort qui a été fait là, parce que j'ai l'impression d'avoir découvert quand même certaines très bonnes séries qui n'ont pas forcément été diffusées ailleurs sur la RTBF.
Mais bien sûr, I Incident est un bon exemple, et on l'a regardé, si je me souviens bien, en VO. On faisait déjà l'effort parce que c'était beaucoup plus proche de la réalité de la série. On avait déjà compris que c'était important de ne pas passer par la traduction.
Voilà.
Très bien. On est fan de séries, ça c'est sûr. Pour le reste, j'espère que vous l'êtes aussi. Comme ça, on aura votre attention plus longtemps encore. La suite en musique.
Oui, ce sont The Lumineers qu'on a entendu dans Nashville, notamment avec Stubborn Love.
Nous voilà déjà arrivés à la revue d'une série terminée. Il y a du lourd en préparation, puisqu'on attaque un gros morceau, Lost. Alors, Aurore, sur cette belle introduction, qu'as-tu à raconter ?
Alors, Lost, c'était une série ABC qui a d'ailleurs fait les beaux jours d'ABC, qui a toujours un peu de mal à s'en remettre, j'ai l'impression, depuis. Entre 2004 et 2010, il y a eu 6 saisons. Elle était créée par J.J. Abrams, qui est le plus connu de ses 3 co-créateurs, autant pour les séries qu'il avait faites avant que celles qu'il a faites après. Damon Lindelof, qu'on a revu dernièrement, vu que c'est un des co-créateurs de The Leftover. Et Jeffrey Lieber, que je ne connais pas, mais bon, j'avoue mon ignorance. On y retrouvait dans les rôles principaux, notamment Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn, Josh Holloway, Jorge Garcia et Michael Emerson.
Ils sont pas sympas, ils te mettent toujours des noms un peu bizarres hein, sur
mais
ta
oui,
liste.
Mais oui. Et ça nous parlait de quoi, Lost ? Ça nous parlait de naufragés, donc. Naufragés d'un avion. Donc l'avion, c'était
écrasé
sur une île. Et ben, à partir de là, c'était une île un petit peu particulière, vu qu'elle ne se trouvait manifestement pas sur les cartes et il y avait assez peu d'espoir d'en sortir. En tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre au fur et à mesure des saisons, pour autant qu'on ait vraiment pu comprendre quelque chose, vu que le mystère n'a fait que s'épaissir de plus en plus quand on avançait et... la plupart des portes qui ont été ouvertes
n'ont jamais été refermées.
Voilà. Donc, bon, je vous propose d'écouter un extrait de la saison 4 dans laquelle on a un dialogue entre Jack et John Locke, justement sur le statut un petit peu particulier de cette île. Est-ce qu'on doit la quitter ? Est-ce qu'on ne doit pas la quitter ? Et on se retrouve après pour les 3 raisons pour se replonger quand même dans la série.
What did you want to talk to me about, John? I want you to reconsider leaving the island, Jack. I would like you to stay.
You like me to stay?
That's right.
You threw a knife into the back of an unarmed woman. You led half of our people across the island and got most of them killed.
Well, Jack, you put a gun to my head and you pulled the trigger. I was hoping we could let bygones be bygones.
I'll tell you what. You stay here in your little greenhouse, but the rest of us are going home.
But you're not supposed to go home.
And what am I supposed to do? Oh, I think I remember. What was it that you said on the way out to the hatch? That crashing here was our destiny.
You know, Jack. You know that you're here for a reason. You know it. And if you leave this place, that knowledge is gonna eat you alive from the inside out.
Voilà, nous sommes donc de retour pour les 3 raisons pour lesquelles, malgré la déception que certains ont pu ressentir et la frustration aussi à la fin de la série.
Certains,
oui, il y en a d'autres qui ont apprécié. Hein,
Mais toi, tu fais partie des certains, on est d'accord.
Moi, je fais partie des certains, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que malgré tout, cette série valait le coup et donc ça vaut quand même la peine si vous la connaissiez pas de la découvrir, et si vous la connaissez, pourquoi pas de la revoir si vraiment ça vous passionne. Alors, première raison, l'univers. L'univers qui nous est proposé est assez passionnant. Au fur et à mesure des saisons, on va avoir tellement de pistes qui vont être lancées, des pistes un petit peu mystiques, des pistes un petit peu de science-fiction avec des voyages dans le temps. Ça part vraiment dans tous les sens, c'est extrêmement intriguant.
Ouais.
Et du coup, il y a un vrai suspense qui s'installe dans cette série quand on la regarde, qui est assez addictif. et qui donne envie de voir la suite continuellement pour savoir ce qui va se passer.
Pendant les premières saisons, puisqu'on l'a regardé dans son mode de diffusion normale, je dirais, donc semaine après semaine, on n'a pas eu l'occasion de voir ça a posteriori. On était vraiment en attente du prochain épisode chaque semaine, ça c'est clair, jusqu'à un certain point. On a bien compris qu'on se faisait avoir, mais sinon, oui, ils ont su tenir la barre très haute au niveau du suspense, ça c'est clair. Et comme tu dis, ils ont ouvert des pistes qu'on voulait voir se développer devant nos yeux. Et malheureusement, pour la plupart d'entre elles, ça ne va pas très loin.
Disons qu'on a jamais vraiment d'explication. Alors justement, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une explication, mais une explication qui n'explique rien, qui est un truc un petit peu mystique, un petit peu spirituel. Ça plaît aux gens que ce genre de choses touchent, et puis ceux que ça ne touche pas ont probablement été beaucoup plus frustrés à cause de ça, justement. Parce que, quelque part, c'est quand même pas conventionnel quand on a des intrigues de science-fiction, etc. On s'attend à avoir des explications un peu... scientifique,
rationnel. Oui, oui.
Et puis là, sur la fin, on est parti sur un truc totalement...
C'est laissé un peu à l'interprétation de chacun.
C'est laissé à l'interprétation de chacun.
On pourrait vraiment en débattre pendant des heures, et je pense que des sujets ont été écrits sur Internet notamment, et on voit diverses pistes vraiment se décrire en longueur, et elles sont pas toutes dans le même sens, donc voilà.
Non, chacun l'a vraiment reçu différemment en fonction de sa sensibilité, et les débats entre fans, en effet, peuvent être sans fin, tellement les interprétations peuvent être différentes.
C'est peut-être la force de la série aussi.
C'est la force de la série, c'est qu'au minimum, c'est clair qu'elle a fait parler d'elle pendant des années, quoi. Ça, il faut lui reconnaître cette qualité. Deuxième qualité, on peut aussi reconnaître que les personnages qui nous sont proposés sont plutôt sympathiques. Je sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même énormément de personnages différents, mais la plupart, de premier abord en tout cas, sont plutôt agréables et on a envie qu'ils s'en sortent, quoi.
Oui, même si petite appréhension vis-à-vis d'un.
Lequel ?
Qui n'aurait pas été nécessairement gentil tout le temps. Je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, il était de l'autre côté, si on veut. Hein,
tu parles de Ben Linus ?
Oui,
Benjamin.
Voilà.
De prime abord, il n'est pas sympathique. C'était pas un personnage du départ. Mm-hmm. Il s'est rajouté après, et de fait, dans le rôle plutôt du méchant. Donc c'est normal qu'il soit pas...
Oui, mais voilà. On parlait tout à l'heure de séries où tous les personnages étaient sympathiques, comme dans Park and Recreation. Ici, c'est pas le cas. Il y en a beaucoup attachants, mais malgré tout, lui, il a une belle tête de cochon, quoi. Voilà.
Dans cette série-là, c'est vrai qu'on l'aime pas beaucoup, surtout au départ. Mais tous les autres, enfin, moi, je pense notamment à certaines séries qu'on peut suivre pour le moment. Comme The Walking Dead, où on s'attache un peu difficilement au personnage, là, assez vite, et peut-être parce qu'on a énormément de flashbacks où on voit un petit peu d'où ils viennent, leur historique et tout, il y a quand même une attention qui est portée au fait de nous les rendre sympathiques.
Mais une nouvelle fois, c'est tranché, c'est une série qu'on a vue il y a assez longtemps. Je me souviens là maintenant de John Locke. Certains moments, il est sympathique, et à certains autres moments, on ne comprend pas trop vers quoi il veut aller. Il la joue un peu solitaire comme ça. Et voilà. Donc...
Après, au fil des saisons, ils ont tous énormément évolué. Certains sont restés plutôt sympas et plutôt fidèles à eux-mêmes. D'autres, comme John Locke, qui est l'exemple le plus extrême, va évoluer de manière beaucoup plus radicale. Ça, c'est aussi une qualité. Même, je dirais que au départ, ils nous paraissent sympathiques, et puis après, eh bien, comme on est attaché à eux, ben on continue quand même à vouloir voir comment ils évoluent, quoi. Même s'ils finissent par évoluer mal, comme c'est le cas de plusieurs d'entre eux dans la série.
Mmh. Bien.
Voilà.
Par personnage intéressant, donc.
personnage intéressant, intriguant aussi, et qui évolue vraiment beaucoup au fil des saisons. Et puis, troisième point, une narration assez originale, puisqu'on a des flashbacks, mais on a aussi des flash-forward, et une... parfois même une temporalité parallèle, on ne sait pas trop où on se situe dans le temps exactement, parce que c'est censé se passer après qu'ils soient revenus de l'île, et même parfois ils sont encore revenus dans l'île et puis repartis. Enfin, au final, on n'arrive plus trop.
On est
trop,
un peu perdu sur la fin. On est un peu comme eux. C'est peut-être ça qui résume aussi le titre de la série.
Oui.
On est perdu. Ce ne sont pas les personnages, mais nous, les spectateurs. Oui. Bah oui, c'était intéressant, mais une nouvelle fois, quand on est un peu trop à la ramasse par rapport à comment identifier le moment présent, parfois c'est pour moi un point négatif, tu vois.
Ça peut finir par être un point négatif, mais au minimum, c'était original.
Oui, c'est clair que pour jouer sur la ligne de temps comme ils l'ont fait, c'est très rarement le cas, donc on peut leur laisser ça.
Oui.
Oui, ok.
Je sais pas, au final, allez, avec les années, après vraiment t'être demandé si tu leur pardonnerais le final qu'ils nous ont donné.
Mais je crois qu'on en a déjà parlé ces derniers temps, il serait peut-être intéressant de s'y replonger une nouvelle fois, suite à toute la réflexion et à tout ce qu'on a pu en lire. Déjà, la regarder une deuxième fois, ça aiderait certainement à identifier certains éléments, parce qu'on reçoit quand même beaucoup d'informations durant les premières séries, on sait pas trop où ils veulent en venir, et en ayant un petit peu les éléments puisqu'on a vu la série au complet, elle est peut-être plus intéressante à revoir en fait.
Probablement. Je me dis aussi ça, le fait de ne plus en attendre une explication permettrait peut-être de mieux profiter des éléments qui nous sont donnés
mieux,
au départ. Oui, c'est vrai.
Parce qu'on s'attendait peut-être à un travail un peu prémâché comme ça, et en fait c'est peut-être ça qu'ils veulent, hein. Comme je l'ai dit, la force c'est qu'ils laissent la porte ouverte à l'imagination, à l'interprétation du téléspectateur, et finalement peut-être qu'elle serait plaisante à revoir. Je me souviens avoir raté une grosse partie de la première saison, donc oui, un de ces quatre, quand j'aurai du temps.
Ah oui, jamais, donc.
Non, on va se forcer, c'est un peu comme replonger dans American Horror Story. Oui, je te l'ai avant la semaine prochaine, hein, n'oublie pas.
Ah non, bon, bref.
Voilà, Lost, tout ce qu'on a à vous dire, c'est qu'elle est disponible partout, c'est intéressant, hein, ce n'est pas complètement à jeter avec l'eau du bain.
Non, et surtout, on a quand même passé de quelques bonnes années, moi je dirais au minimum 4 très bonnes années
c'est assez prenant.
À suivre la série en étant totalement immergé dedans, quoi.
Très bien. Petite pause musicale.
Alors, on va s'écouter Ben, chanté par un tout jeune Michael Jackson, entendu dans Lost.
We're looking for with the
Et bien voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. On rappelle les réseaux sociaux, le site internet, les podcasts, tout ça. Je te laisse faire.
Tout ça, on va principalement nous retrouver sur notre site internet seriefolie.be en un mot avec un S à série. Mmh. Et à partir de là, eh bien, il y a moyen de s'abonner au podcast, il y a moyen de s'abonner au flux RSS pour recevoir les articles aussi si ça vous intéresse. Il y a moyen de d'arriver en tout cas sur les pages Facebook et Twitter également pour nous follower ou liker la page, voilà.
Et venir faire vos petits commentaires. Voilà, vous êtes les bienvenus. On se retrouve la semaine prochaine sur votre radio préférée. Très bonne semaine à toi, Aurore. À très bientôt.
Bonne semaine.